Bonjour, prions le Seigneur. Mon Père céleste, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que ces quelques mots que tu m'as inspirés puissent aider chacun et chacune à s'attacher à tes commandements et à se réjouir des promesses qui sont attachées à ces commandements. Je te remercie, mon Dieu, pour ta fidélité envers chacun d'entre nous. Merci Jésus. Amen. On va faire une lecture dans 1 Thessaloniciens 4, 1, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4, 1. Je lis. Frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Les frères, les sœurs de l'église de Thessalonique avaient appris de la part des hommes, non pas de la part de Dieu directement, de la part des hommes, de la part de... Il dit là, au reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, faire confiance aux serviteurs de Dieu. Il y a quelques années, dans les années 80 à peu près, il nous arrivait d'écouter des prédications qui nous venaient des États-Unis par téléphone, et c'était très cher, et la qualité n'était pas extraordinaire, mais voilà, et on était déjà très contents avec ça. Et il nous aurait été difficile à l'époque de croire qu'en 2014, nous pourrions voir en direct des prédications sur notre téléphone portable. Déjà, même l'idée du téléphone portable... Un téléphone, ça servait à téléphoner à l'époque, et encore, c'était avec fil, on ne pouvait pas sortir, enfin bon, c'était tout à fait une autre époque. Aujourd'hui, on peut se parler d'un bout à l'autre de la planète gratuitement avec Skype, en vidéo, en couleur. C'était une chose inconcevable dans les années 80. Durant mon ministère, j'ai rencontré bien des ministres de la parole de Dieu, et l'un d'entre eux, avec qui je travaillais à peu près tous les jours pendant des années, avait de graves problèmes avec son épouse, avec sa famille et avec tous les équipiers de l'œuvre dans laquelle nous travaillons. Et souvent, nous avions des réunions à cause de ces difficultés. Et un jour, alors qu'on parlait de tout cela, il m'a dit, il s'est penché vers moi, il m'a dit, « Tu sais, Michel, ça vient beaucoup de moi, j'ai un sale caractère, je suis comme ça. » Sur le moment, sa réflexion m'a laissé pantois. Et puis, depuis, elle me hante. Je suis comme ça. Une fois que cet homme, en fait, une fois que nous décidons que nous sommes comme ça, eh bien, on renonce à notre capacité de changer. On pourrait tout aussi bien lever le drapeau blanc, déposer les armes, accepter la défaite et nous rendre à l'ennemi. Nous avons perdu toute perspective de victoire quand on dit « Moi, je suis comme ça ». Certains parmi nous, parmi vous qui écoutez en ce moment, vous pensez peut-être que ce n'est pas votre cas, mais on démontre chacun de nous par au moins une ou deux habitudes que c'est comme ça que nous sommes. Eh bien, ce soir, nous sommes réunis parce que la personne que nous sommes n'est pas celle que nous pouvons devenir. Nous sommes réunis ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis avec l'assurance que l'expiation nous donne le pouvoir de changer. Quelle que soit notre faiblesse, quelle que soit notre infirmité, quelle que soit notre dépendance, nous sommes réunis avec l'espoir, avec la foi, que notre avenir peut devenir meilleur, peu importe notre histoire. Quand on vient aux réunions avec l'intention réelle de changer, alors le Saint-Esprit a un accès complet à notre esprit, qui lui-même communique à notre intelligence, à notre âme, les choses de Dieu. Ce n'est pas mon habitude de dire cela, mais ce soir, je vous le dis au nom de Jésus-Christ, il arrivera que si vous faites preuve de foi en Dieu, souvenez-vous que la foi, c'est un principe d'action. Il arrivera que si vous faites preuve de foi en Dieu, le Seigneur déversera son esprit sur vous quand vous vous rassemblerez. Et ça veut dire ce soir. Si tu penses que tes difficultés sont insurmontables, souviens-toi de la condition où se trouvait notre cher frère Nicolas Savadogo en l'an 2000. Nicolas Savadogo, l'homme qui m'interprète depuis maintenant bientôt 14 ans dans toute l'Afrique francophone. Ce jeune homme, quand je l'ai rencontré, maigre comme un coucou, était célibataire. Bon, il avait une petite fiancée, mais impossible de se marier. Ça coûtait bien trop cher. La dot, c'était à l'époque 2000 francs. On est compte, 300 euros, quoi. Où est-ce qu'il allait trouver ça? Il avait été rejeté par son père, banni du village. Son père était chef des masques. Tout ça parce qu'il s'était converti à Jésus-Christ. Il était contraint de manger dans les poubelles, de l'armée du Burkina Faso. Il était contraint de se laver dans les fossés au bord des routes. De faire sa lessive aussi là, dans l'eau, au bord des routes. Et regardez-le aujourd'hui. Il s'est confié au Seigneur. Je l'ai baptisé. Il s'est confié dans ce que je lui disais selon 2 Chroniques 20-20. Et aujourd'hui, il est marié, père de 2 enfants. Ils attendent le 3e. Il a acheté 50 hectares de terrain. Il cultive le tout avec des ouvriers qu'il paye au-dessus du SMIC du pays. Il a monté un orphelinat dans lequel se trouvent un peu plus de 150 enfants maintenant, avec une école. Il y a une école, plusieurs classes pour tous ces enfants. Il s'est réconcilié avec son père. Son père s'est converti à Jésus-Christ. Il a installé l'eau dans son village avec un château d'eau. Il a installé l'électricité dans son village. Il a des troupeaux de bœufs, de cochons, de moutons. Il a fait des forages dans plusieurs villages offerts. Il a construit des églises. Il a une belle maison à Ouagadougou. Vous savez, quand je dis une belle maison, ça veut dire qu'il a une maison de blanc. Pas une maison en torchis, machin, avec un toit en tôle. Et il a encore une autre maison qui sert de bureau pour ses diverses entreprises, là où il y a ses secrétaires, là où il reçoit les hommes et les femmes d'affaires. Sa réussite est si fulgurante que la semaine prochaine, il est reçu par le président de son pays. Mes frères et sœurs, il a changé. Alors tout le monde dit Alléluia. Oui, bien sûr, Alléluia. Mais il a changé parce qu'il a cru l'évangile qui lui était annoncé. Il a été mon interprète pendant des années, il l'est encore. Et tous les enseignements que j'ai apportés, il les a interprétés devant des foules et ça rentrait en lui et il les a mis en pratique. Il a cru ce que je disais, il a cru qu'il pouvait être et qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait d'honnête, d'utile et d'honorable. Il a cru. Et souvenez-vous, la foi n'est qu'agissante. Cet homme représente à mes yeux tout ce qu'un homme doit être quand il a la volonté de changer. Nicolas a entendu qu'en Jésus-Christ, il y a possibilité d'acquérir un immense potentiel tant ici-bas que dans l'éternité à venir. En fait, les enseignements de l'Évangile ont changé sa vie, et cela de façon permanente. Frères et sœurs, quels changements doivent avoir lieu en nous pour pouvoir servir Dieu? Quels sont les changements requis pour pouvoir devenir la personne que vous devez être? Nous devons premièrement, je crois que je vais le dire en 3 points. Premièrement, nous devons être des hommes et des femmes de la prêtrise, conscients de la prêtrise, avec une maturité spirituelle, parce que nous avons contracté des alliances. On s'est engagé à suivre le Seigneur selon l'ordre établi. Comme l'a dit Paul, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant. J'ai arrêté d'être capricieux et de faire ce que je voulais, comme je voulais, comme je le comprenais. Nous devrions être différents, mes frères et sœurs, parce que nous détenons la prêtrise.
On doit être différent, non pas de façon arrogante ou orgueilleuse ou condescendante, mais humblement, d'une façon réceptive. Deuxièmement, le fait d'être un peuple de sacrificateurs, un peuple de prêtres, de nous faire comprendre que nous avons l'appel de manifester cela en servant les autres. Ne pas servir notre famille, ne pas accepter de servir, d'obéir, ou de remplir passivement les appels de l'Église, voilà, on fait juste le strict nécessaire, ou ne pas se soucier des autres, sauf si ça ne nous dérange pas trop. Ce n'est pas la sorte d'homme ou de femme que nous devons être. Ça, c'est de l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est l'antithèse de la responsabilité d'un prêtre. Et si c'est un trait de votre personnalité, vous devez changer. Vous ne pouvez pas dire, mais je suis comme ça. Troisièmement, nous devons être dignes. Mon épouse et moi, nous avons passé des heures, des semaines chez les Osborne, et je peux dire que vraiment T.L. et Daisy Osborne détenaient la prêtrise et ils se gardaient toujours dignes. Je vous assure que lorsque nous parlions tête à tête avec les Osborne, j'avais l'impression que s'il rapprochait trop son visage de mon visage, il y avait tellement de feu en lui que j'aurais pu prendre feu. En tout cas, je risquais d'avoir les sourcils roussis. Nous devons nous rendre compte que les pratiques communément acceptées dans le monde étouffent notre pouvoir de la prêtrise. On doit se garder, on doit faire attention, veiller à tout faire avec dignité. Le Seigneur nous invite ce soir à prendre garde à nous-mêmes, à prêter une attention diligente aux paroles de la vie éternelle qui sont dispensées. Jésus n'attend rien de plus ni de moins que nous devenions tel qu'il est lui. Et dans sa miséricorde, il ne nous a pas laissés seuls. Il est là, son esprit est là. Il a donné des ministères. Il y a la communion fraternelle. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement par son esprit. Tout cela s'est fait afin que de nous permettre de nous renforcer, de renforcer en nous ce qui est faible, en nous appuyant sur l'expiation de notre Sauveur. C'est toujours en s'appuyant sur l'expiation de notre Sauveur que nous pouvons changer. Le monde change. On dit qu'il évolue. Moi, je ne crois pas que c'est une évolution. On sait très bien qu'il n'évolue pas. Il est en train de rétrograder. Mais si la technologie des années 80 a évolué, hein, on a passé du téléphone à fil à l'Internet, c'est extraordinaire. Que dire des mentalités des terriens ? Ben, les mentalités n'ont pas évolué vers le bien, mes frères et sœurs. Et pour ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ, nous devons évoluer vers le bien, être plus efficaces, plus saints. Mais ça demande de l'humilité, ça demande de la foi, ça demande de l'amour pour Dieu, pour son Église, pour la création générale. Il faut arrêter de croire que vous êtes comme ça. Vous devez devenir la personne que Dieu veut que vous soyez. Dans Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, le paradis. Et nous, mes frères et sœurs, le paradis, il est en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous, en nous. En nous, c'est son jardin. Et comme Adam et Ève, nous sommes appelés à cultiver et à garder le jardin, notre paradis, notre être intérieur. Genèse 2,15 nous dit qu'ils devaient cultiver et garder le jardin. Le cultiver, l'améliorer, le faire prospérer, ça voulait dire ôter les mauvaises herbes, émonder leur propre production, labourer leur fondement, ensemencer avec de bonnes semences nouvelles et anciennes. Ça voulait dire arroser, ça voulait dire recommencer encore et encore et encore, et tout ça, en plus en le gardant, en le protégeant. Et c'est une partie de notre responsabilité la plus grande, celle qui nous concerne, nous cultiver nous-mêmes et nous garder nous-mêmes. Et tout notre travail de cultivateur et de gardien de notre paradis intérieur aura des répercussions dans l'éternité, mes frères et sœurs. Mais notre paradis intérieur s'étend à notre famille aussi. Et là aussi, nous devons être des gardiens et des veilleurs, des cultivateurs aussi. Et tout notre travail de cultivateur et de gardien de notre famille aura des répercussions jusque dans l'éternité. Et puis, on a à cultiver et à garder l'Église de Jésus-Christ, qui est le jardin de la communauté, des siens. Alors, premièrement, en tant que membre de l'Église, personnellement, je dois me cultiver et me garder. Vous devez vous cultiver, vous garder. Deuxièmement, cultivez et gardez votre propre famille, qu'elle soit dans l'Église ou encore hors de l'Église. Votre propre famille, qu'elle soit vivante ou pas. Nous avons des tâches à accomplir et cela, ça cultive et ça garde l'Église de Jésus-Christ. Mais ça n'est pas suffisant. Nous devons cultiver et garder nos frères et sœurs. Les cultiver, ne pas les laisser en jachère. Les aider à changer. Les avertir. Les encourager. Les honorer. Les garder. Veiller à ce qu'ils ne se perdent pas en route. Ou ne s'arrêtent pas en route. Ou ne rétrogradent pas. Garder. Caïn disait, suis-je le gardien de mon frère? Ben oui, oui, t'es le gardien de ton frère. Nous sommes aussi appelés à cultiver nos relations avec ceux de l'extérieur, c'est-à-dire à être infiltrés dans ce monde sans être de ce monde. Avoir et être un bon témoignage dans ce monde. Alors, j'avoue, c'est vrai, c'est une gymnastique qui tient du grand écart, c'est pas facile tout le temps. Mais nous avons le Seigneur avec nous. Et nous avons à le faire, tout ça, nous avons à le faire en gardant des frontières intactes, afin que l'ennemi n'entre pas dans le jardin, parmi les frères et sœurs. Pas facile. Alors, nous pouvons toujours changer, nous pouvons toujours nous améliorer notre vie spirituelle, morale, matérielle, améliorer notre vie de famille, améliorer l'état de notre communauté, améliorer nos relations avec les gens de l'extérieur. La société humaine est passée de la communication par les coureurs. Autrefois, pour avoir des nouvelles, on envoyait un coureur à pied ou à cheval, en diligence, Maintenant, on en est arrivé au téléphone portable, à l'Internet, au satellite. Par exemple, la société a évolué. Choisissons ce que nous voudrions voir évoluer en nous-mêmes, dans notre famille, dans l'Église et dans ce pauvre monde. C'est cela, être un bon disciple. C'est cela être un bon ouvrier. C'est cela être de bons soldats du roi des rois. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous prenions conscience de ces choses. Il ne suffit pas simplement d'aller au culte le dimanche matin et une ou deux fois dans une réunion de prière durant la semaine, ou une réunion de jeûne ou que sais-je. Il ne suffit pas de simplement jouer du piano à l'église ou de chanter dans la chorale. Non. Ou de donner la Sainte-Cène? Non. Jésus attend de grandes choses de chacun de vous, de chacun de nous. C'est à nous de relever les défis. Le monde change. Vous devez changer. Vous pouvez changer. Si seulement vous croyez que vous pouvez changer, alors cela donne un accès au Saint-Esprit pour vous changer. Si vous ne croyez pas, alors voilà, vous allez rester comme ça. Et dans 10 ans, vous retomberez sur cette prédication, vous l'écouterez, vous direz « Ah, j'ai perdu 10 ans ». Quel dommage, quel gâchis. Frères et sœurs, attachez-vous à cultiver votre vie, votre famille, votre église, vos relations avec le monde, et à garder tout cela, à protéger tout cela, à vous conduire d'une façon digne, pour avoir un bon témoignage qui glorifie notre Seigneur Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit ces choses. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt. Dieu vous bénisse.